Vous écoutez On lit pour vous.
Épargner quand chaque dollar compte, un levier trop souvent sous-estimé. Un texte de Mindy Canto, agente d'accompagnement budgétaire chez Finautonome, paru dans la revue Paraquad numéro 170, été 2026. Pourquoi parler d'épargne quand on vit avec peu de revenus? Pour plusieurs d'entre nous, si nous sommes dans une situation précaire et que nous vivons avec un handicap, parler épargne peut sembler irréaliste. Quand le budget est serré, l'urgence est de payer le loyer, l'épicerie et les médicaments. Les chiffres sont préoccupants. Selon certaines enquêtes représentatives, environ une personne sur cinq au Canada a déclaré sauter ou réduire des repas pour faire face à la hausse des prix alimentaires. Dans ce contexte, il est certain que parler d'épargne peut sembler déconnecté, voire inaccessible. Pourtant, même dans ces réalités, l'épargne peut devenir un outil de protection et d'autonomie, à condition qu'elle soit adaptée et bien comprise. L'épargne, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté. Épargner ne signifie pas accumuler de grosses sommes. C'est aussi se donner une marge de manœuvre, réduire le stress financier et se protéger contre les imprévus. Une petite réserve peut parfois éviter de s'endetter lorsqu'une dépense inattendue survient. À long terme, l'épargne peut aussi soutenir des projets de vie, même modestes, et offrir un certain sentiment de sécurité. Dans un contexte où l'insécurité financière est de plus en plus présente, chaque geste compte. L'épargne devient alors un moyen de reprendre un certain contrôle, même lorsque les revenus sont limités. Des programmes qui peuvent réellement faire une différence. Certains programmes gouvernementaux sont conçus pour rendre l'épargne plus accessible, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Le régime enregistré d'épargne invalidité, REEI, en est un exemple majeur. Le REEI permet d'épargner à l'abri de l'impôt, mais surtout de recevoir des subventions et des bons gouvernementaux pouvant représenter des montants importants. Dans certains cas, il est même possible de recevoir des contributions sans avoir à cotiser soi-même. Pour plusieurs personnes, c'est l'un des rares programmes où chaque dollar investi peut être multiplié. Malgré son potentiel, le REEI demeure largement sous-utilisé. Les raisons sont multiples. Manque d'informations, démarches complexes, crainte de perdre certaines prestations ou impression que ce n'est pas pour soi. Pourtant, lorsqu'il est bien compris et bien encadré, il peut avoir un impact significatif à long terme. L'importance de l'accompagnement. Comprendre l'épargne et les programmes qui y sont liés ne devrait pas être un privilège. Un accompagnement adapté permet de démystifier les règles, d'éviter les erreurs et de bâtir une solution réaliste, respectueuse de la réalité de chaque personne. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais d'avancer à son rythme. Épargner, c'est aussi reprendre du pouvoir. L'épargne n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de dignité, de sécurité et de choix. Lorsqu'elle est soutenue par des programmes adaptés et un accompagnement humain, elle devient un véritable levier pour réduire la vulnérabilité financière et améliorer la qualité de vie. Mindy Canto est agente d'accompagnement budgétaire chez Finautonome. Personne en situation de handicap, elle conjugue expertise terrain et vécu personnel pour mettre en lumière les angles morts des systèmes financiers et sociaux. Militante des droits des personnes en situation de handicap, elle s'engage à dénoncer les inégalités, à prévenir les abus financiers et à rendre l'information financière réellement accessible dans une perspective de justice sociale et de dignité. C'était « Épargner quand chaque dollar compte », un levier trop souvent sous-estimé. Un texte de Mindy Canto, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Ce qu'on voit, les yeux fermés. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 juin 2026 dans La Presse. Quand on ferme les yeux, même dans l'obscurité la plus totale, on voit souvent des formes et des couleurs. Il s'agit de phosphène, des phénomènes lumineux neuronaux. Des chercheurs tentent aujourd'hui de les utiliser pour améliorer le traitement de la dépression. Les phosphènes sont des hallucinations visuelles, explique Paul Taylor, neuroscientifique à l'Université de Zurich, qui étudie le sujet depuis près de 20 ans. Ça peut être des auras durant des migraines ou des hallucinations visuelles avec certains troubles comme le Parkinson ou l'épilepsie, ou simplement quand on ferme les yeux dans l'obscurité et qu'on voit faiblement des formes et des couleurs. Il est aussi possible de créer des phosphènes sous forme d'éclairs lumineux quand on fait de la stimulation magnétique transcrânienne. Le psychologue de Zurich travaille lui-même sur des phosphènes causés par la stimulation magnétique transcrânienne. Ça nous donne une mesure de l'excitabilité des neurones du cortex visuel du cerveau, dit-il. Il est possible que l'excitabilité des neurones des différentes régions du cerveau soit corrélée, dit M. Taylor. Si c'est le cas, une mesure de l'excitabilité des neurones du cortex visuel pourrait servir à calibrer la stimulation magnétique transcrânienne agissant sur d'autres zones du cerveau, responsables par exemple de troubles comme la dépression ou le Parkinson. Pour avoir un effet clinique, la stimulation magnétique transcrânienne doit avoir le bon angle, la bonne intensité et agir au bon endroit du cerveau, poursuit M. Taylor. Il se peut aussi que deux patients aient une excitabilité des neurones différente et qu'il faille adapter ces paramètres d'un patient à l'autre. L'étude des phosphènes générés par la stimulation magnétique transcrânienne permet aussi de comprendre comment les différentes régions du cerveau interagissent face à cette stimulation, indique M. Taylor. Les phosphènes permettent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on fait de la stimulation magnétique transcrânienne, illustre Charlotte Marshall, une neuroscientifique à l'Université de Birmingham qui étudie aussi les phosphènes dans ce cadre. Actuellement, on a une efficacité de 50% pour la dépression. Il faut arriver à comprendre comment l'améliorer. Selon une étude publiée en janvier dans Biological Psychiatry Global Open Science, la stimulation magnétique transcrânienne a un effet sur 46% des patients dépressifs et mène à une rémission de la dépression chez 28% des patients. Miroir des neurones. Nous ne savons pas encore clairement quelles régions du cerveau doivent être activées pour générer des phosphènes, dit M. Taylor. Ce mystère entoure aussi les phosphènes plus légers qui sont générés quand on ferme les yeux dans l'obscurité, par exemple, durant un moment d'insomnie en plein milieu de la nuit. Quand on est en plein jour ou qu'il y a de la lumière, explique-t-il, on voit à travers nos paupières, ou alors l'image du dernier objet vu reste imprimée quelques instants dans notre rétine. Mais quand on est dans le noir depuis longtemps, il faut que les phosphènes soient le reflet de l'activité des neurones du cerveau. Les phosphènes des insomniaques sont donc l'une des rares manières accessibles à la plupart des humains de voir leur cerveau travailler, disent M. Taylor et Mme Marshall. Il se peut que ce soit une tentative du cerveau de voir des choses alors qu'il ne le peut pas, dit Mme Marshall. Les neurones continuent à être actifs même quand il n'y a pas de mouvement et de stimuli extérieurs. Des phénomènes plus actifs ont été rapportés par des astronautes sur la Station spatiale internationale et leur utilisation est envisagée pour calibrer des prothèses visuelles qui, éventuellement, pourraient restaurer la vue sans intervention chirurgicale. Les phosphènes dans l'espace sont probablement dus au fait que les radiations solaires sont plus intenses. Sur Terre, le champ magnétique terrestre bloque une bonne partie de ces radiations solaires. Méditation. Ces phosphènes naturels sont une composante essentielle de l'expérience spirituelle, selon Jan Esselink, un biologiste néerlandais qui a fait carrière en psychopharmacologie de la douleur avant de s'intéresser, depuis quelques années, aux phosphènes. Les hallucinations visuelles font partie de la vie des mystiques depuis Hildegarde de Bingen, une bénédictine du XIIe siècle, et les premiers maîtres bouddhistes, dit M. Esselink. Les choses qu'on voit dans l'obscurité sont universelles. Les chrétiens parlent d'anges, le yoga de lumière intérieure. C'est une manifestation biologique de la conscience, de l'activité du cerveau qui est universelle. De plus en plus de yogis proposent des techniques de méditation de Fosfène où on se concentre sur ce qu'on voit les yeux fermés plutôt que sur ses sentiments et pensées, note M. Essling. Les Fosfène sont un phénomène réel. C'est un peu comme quand on regarde un ciel très étoilé. Beaucoup de gens ont un sentiment bien réel, soit de communion avec l'immensité, soit de paix. Je pense que l'étude des Fosfène naturels va nous amener à beaucoup mieux comprendre l'expérience humaine. M. Essling aimerait, par exemple, que des études vérifient quelle proportion de la population voit des Fosfène quand elle ferme les yeux dans l'obscurité et si cette capacité est liée à certains traits de personnalité ou biologiques. Les Fosfène ont par ailleurs fait l'objet de réflexions artistiques, notamment à partir des premières descriptions par les anatomistes européens du 19e siècle. Un film artistique, Le cinéma du prisonnier, a été diffusé en 2008 à partir des descriptions de Fosfène durant les expériences d'isolement sensoriel conduites à l'Université McGill en 1954. C'était « Ce qu'on voit les yeux fermés », un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 juin 2026 dans la presse.
Bouger pour mieux vivre après une lésion médulaire. Un texte de Daniel Badra, physiothérapeute à la Fondation Neuroefficacité, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Comme physiothérapeute, j'entends souvent la même question. Est-ce que l'activité physique peut vraiment faire une différence quand on vit avec une lésion à la moelle épinière? La réponse, appuyée par la recherche, est claire. Oui. Bouger régulièrement est l'un des moyens les plus efficaces pour protéger sa santé et améliorer sa qualité de vie. Les risques de complications. Après une lésion médulaire, plusieurs changements dans le corps peuvent augmenter les risques de complications de santé. La diminution de la mobilité et de l'activité physique peut mener à un déconditionnement important. Les personnes vivant avec une paralysie sont plus à risque de maladies cardiovasculaires, d'infections respiratoires, de douleurs chroniques et de fatigue persistante. La diminution de la masse musculaire et de l'endurance peut aussi rendre les activités du quotidien plus exigeantes. Certaines complications, comme les plaies de pression ou la perte de condition physique, peuvent parfois mener à des hospitalisations. Ces risques peuvent sembler préoccupants, mais il existe un outil simple et puissant pour les réduire, l'activité physique. Les bénéfices de l'activité physique. Les études montrent que l'exercice physique adapté peut améliorer la condition cardiovasculaire, maintenir la force des membres et du tronc et augmenter l'endurance nécessaire aux activités de la vie quotidienne. Bouger a également des effets importants sur le bien-être mental. L'activité physique contribue à améliorer l'humeur, à diminuer le stress et à renforcer le sentiment de contrôle sur son corps. Les recherches scientifiques suggèrent généralement environ 20 minutes d'activité aérobie d'intensité modérée deux fois par semaine, combinées à des exercices de renforcement musculaire. Mais il est important de se rappeler une chose. Ces recommandations ne sont pas un point de départ obligatoire. Elle ne devrait jamais devenir une barrière. Le plus important est simplement de commencer. Quelques minutes d'exercice, quelques mouvements avec des élastiques ou une courte séance d'activité peuvent déjà avoir un impact. Avec le temps, ces petits efforts peuvent devenir une routine et apporter des bénéfices très concrets. Trouver sa façon de bouger. Il existe plusieurs façons d'intégrer l'activité physique dans son quotidien. Certaines personnes préfèrent s'inscrire dans un gym ou un centre d'entraînement adapté. D'autres participent à des cours en ligne qui permettent de bouger à partir de la maison. L'achat d'équipements simples, comme des bandes élastiques, des poids légers ou un ergomètre pour les bras, peut aussi faciliter l'entraînement à domicile. Plusieurs organismes sportifs offrent également des activités adaptées qui combinent exercice et motivation de groupe. Au final, L'objectif n'est pas la performance, mais la régularité. Commencez petit, bougez un peu plus chaque semaine et transformez le mouvement en habitude. C'est souvent ici que commencent les plus grands changements. C'était « Bouger pour mieux vivre après une lésion médulaire », un texte de Daniel Badra, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Le mariage entre personnes de même sexe divise de nouveau les républicains. Un texte de Sabrina Tavernise du New York Times, paru le 26 juin 2026 dans Le Devoir. Au début de juin 2026, le tonitruant représentant Andy Ogles, républicain du Tennessee, a fait ce qu'il fait souvent, publier sur les réseaux sociaux un message destiné à provoquer. L'homosexualité n'a pas sa place en Amérique. Joyeux mois de la famille nucléaire. Contrairement à d'autres de ses récentes publications virulentes, toutefois, au sujet des Américains musulmans, par exemple, celle-ci a suscité la réprobation de nombreux membres de son propre parti, dont Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants. M. Ogles a supprimé la publication sur X dont il dit qu'elle a été envoyée par un membre de son personnel et l'a qualifiée de « stupide » et de « blessante ». La brève existence de cette publication illustre les divisions qui traversent le Parti républicain sur le mariage entre personnes de même sexe. L'arrêt Obergefell contre Hodges, décision de la Cour suprême qui protège ce droit, aura 11 ans cette année et rien n'indique vraiment que les républicains de l'establishment le remettent en question. En même temps, des conservateurs chrétiens comme M. Ogles, désormais partie essentielle de la coalition du président Donald Trump, poursuivent cet objectif avec une énergie et une ambition renouvelées, utilisant souvent la défense des droits des personnes trans comme nouveau front dans ce débat. Il y a 10 ans, personne n'aurait publié quelque chose de ce genre, affirme Ross Heminger, président des Log Cabin Republicans, un groupe de défense des droits des personnes homosexuelles. Nous voilà revenus à la case départ, à débattre de choses que nous pensions régler. L'appui au mariage entre personnes de même sexe recule, renversant une tendance observée pendant des années. Ce mois-ci, Gallup a publié un sondage montrant que le soutien des républicains s'établit maintenant à 37%, en baisse de 18 points de pourcentage par rapport au sommet atteint en 2022. L'appui a aussi diminué chez les électeurs indépendants. Quelques élus républicains ont également présenté des résolutions contre le mariage entre personnes de même sexe. Depuis 2025, des projets de loi et des résolutions ont été déposés dans une douzaine d'États environ, soit pour exhorter la Cour suprême à casser l'arrêt Obergefell, soit pour proposer des catégories de mariage limitées aux couples hétérosexuels, selon Lambda Legal, un groupe de défense des droits des personnes homosexuelles. Presque toutes ces initiatives sont mortes en comité. Des États républicains ont même commencé à rebaptiser le mois de la fierté, commémoration en juin du soulèvement de Stonewall et moment emblématique du mouvement de libération homosexuelle, en le désignant plutôt comme le mois de la fidélité ou le mois de la famille nucléaire. La publication supprimée de M. Ogles faisait référence à cette requalification au Tennessee, où la législature a adopté cette année une résolution définissant la famille comme comprenant un mari et une femme. Il y a une résurgence de l'aile évangélique dans le parti, observe Austin Gilpin, consultant politique homosexuel établi à Washington, qui travaille pour des républicains et des démocrates. Ils font la démonstration de leur force parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir s'en tirer. Reste à savoir ce qu'il en sortira. S'agit-il seulement d'un moyen de mobiliser les électeurs en vue des élections de mi-mandat ou des germes d'un véritable ressac? Une coalition désordonnée. Les conservateurs homosexuels, surtout des hommes, travaillent depuis des années aux côtés des chrétiens conservateurs au sein du Parti républicain. Ils divergent sur les questions sociales, mais s'entendent sur d'autres politiques, notamment économiques. Cette alliance n'a jamais été simple, mais selon M. Gilpin, les deux camps ont besoin l'un de l'autre. Ni l'un ni l'autre n'a le pouvoir d'expulser l'autre de la pièce, dit-il. La coalition est simplement désordonnée. Le véritable danger pour les Américains homosexuels, selon M. Gilpin, serait une offensive concertée devant les tribunaux contre le mariage entre personnes de même sexe en tant que droit, à l'image de celle qui a permis de mettre fin au droit à l'avortement. Mais le milieu juridique conservateur ne semble pas enclin à rouvrir le débat sur la question du mariage, dit-il. L'Alliance Defending Freedom, groupe juridique conservateur qui a plaidé de l'affaire dans laquelle la Cour suprême a permis à un pâtissier du Colorado de refuser de servir un couple homosexuel, affirme ne travailler sur aucune cause liée au mariage entre personnes de même sexe. Le véritable objectif de cette contre-programmation dans les États républicains, soutient M. Gilpin, est de galvaniser la base pendant une saison de primaire difficile. En même temps, les conservateurs chrétiens, en pleine ascension culturelle et politique, relancent leurs efforts pour remettre la question du mariage entre personnes de même sexe à l'ordre du jour du Parti républicain. En janvier 2026, la militante chrétienne Katie Faust a lancé la campagne Greater Than qui vise à casser l'arrêt Obergefell. Elle soutient que cette décision place le droit des adultes au mariage au-dessus de ce qu'elle considère comme l'intérêt supérieur des enfants. Grandir auprès d'une mère et d'un père. En entrevue, elle affirme que plus de 100 organisations se sont jointes à la campagne. Madame Faust, 50 ans, défend diverses versions de cet argumentaire depuis des années. Mais une militante chrétienne plus jeune, Ali Beth Stuckey, dont le balado compte un large public, particulièrement chez les jeunes femmes, reprend elle aussi ce raisonnement. Dans son émission du 1er juin 2026 intitulée « Pride Month is here, but Christians are gaining ground », le mois de la fierté est arrivé, mais les chrétiens gagnent du terrain. Elle a affirmé que l'arrêt Obergefell avait redéfini non seulement le mariage, mais aussi le genre et la parentalité. Bien que certains soutiennent que les droits devraient être étendus aux hommes homosexuels et aux lesbiennes, mais pas aux personnes trans, elle n'est pas de cet avis. « C'est le même calcul », dit-elle. L'arrêt Obergefell, ajoute-t-elle, a des répercussions non seulement sur notre perception de la réalité, mais il en a aussi sur les droits des femmes, les espaces réservés aux femmes, les bourses destinées aux femmes. Il a des répercussions sur les enfants. Nombre de personnes, dont des conservateurs modérés et des républicains homosexuels, affirment qu'accorder à tous le droit de se marier est essentiel au bonheur personnel et à la stabilité sociale, et que c'est fondamentalement juste. Madame Stuckey n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le rôle des droits des personnes trans. Jonathan Roach, auteur d'un livre publié en 2004 en faveur du mariage entre personnes de même sexe, affirme que les influenceurs de droite ont déformé la question trans en s'acharnant sur des sujets de niche impopulaires, comme les athlètes trans. Mais il estime aussi que certains militants du mouvement LGBTQ+, ont défendu une version intransigeante des droits des personnes trans qui n'a jamais été appuyée par une majorité d'Américains. Les tactiques sont devenues assez intimidantes. Si vous n'êtes pas avec nous, « vous êtes un bigot », affirme M. Roach, chercheur principal à la Brookings Institution. Avec le temps, dit-il, cela a ramené la question du mariage sur le terrain de la guerre culturelle alors que la société américaine devenait de plus en plus polarisée. C'était devenu un marqueur politique de votre position sur le wokisme, ajoute-t-il. Il y a aussi un fossé générationnel. Les gens qui arrivent maintenant dans le parti ne se souviennent pas de la lutte pour le mariage parce qu'ils étaient enfants, dit M. Eminger des Lodge Cabin Republicans. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a toute cette affaire trans. M. Eminger affirme que les hommes de la génération Z sont aussi plus susceptibles d'être religieux que ceux des générations plus âgées et peut-être plus conservateurs sur le plan social. Diplômé d'une école secondaire de l'Ohio en 2008 en tant qu'homme ouvertement homosexuel, M. Eminger se souvient d'une génération qui n'était pas particulièrement religieuse et qui était plus ou moins tolérante à l'égard de son orientation sexuelle. Les gens disaient « Qu'est-ce que ça peut faire, la personne qu'on épouse ?» dit M. Eminger, aujourd'hui âgé de 36 ans. Maintenant, ce sont des jeunes qui mènent la charge en disant que le mariage homosexuel était une mauvaise idée. Mariage entre personnes de même sexe et acceptation. Malgré les arguments avancés par les conservateurs chrétiens et les résultats du sondage Gallup, Gavin Smith, républicain homosexuel siégeant au conseil municipal de Lexington, en Caroline du Sud, dit n'avoir vu aucun signe d'une opposition croissante aux couples homosexuels parmi les électeurs. Lorsqu'il s'est présenté au conseil en 2023, il a frappé à plus de 3000 portes dans sa circonscription très républicaine, presque toujours avec son mari, Matthew. « Je peux penser à une ou deux personnes qui m'ont claqué la porte au nez », dit-il. « Dans l'ensemble, les gens ont été gentils et cette communauté nous a complètement adoptés, Matthew et moi. » Lui aussi croit que le sondage Gallup montrant un ressac républicain est lié aux enjeux trans, à propos desquels il dit avoir également des questions. « Je ne vois tout simplement pas de grand mouvement populaire qui cherche à interdire le mariage homosexuel », dit-il. « Au contraire, la plupart des gens s'en fichent vraiment. » C'était « Le mariage entre personnes de même sexe divise de nouveau les républicains ». Un texte de Sabrina Tavernise du New York Times paru le 26 juin 2026 dans Le Devoir.